Vous écoutez, on lit pour vous.
Bouteille ou canette? Quel contenant choisir pour la bière? Un texte de Chloé Bourquin, paru le 28 février 2025 dans La Presse. Quentin, un lecteur, nous demande « Chaque fois que je vais à l'épicerie, je me demande ce que je devrais privilégier comme bière pour que le contenant soit plus facile à recycler. La canette ou la bouteille en verre? C'est une bonne question. Et c'est d'ailleurs la première qu'on devrait se poser quand on s'interroge sur l'impact de la bière. La bière, c'est principalement de l'eau. Donc, en comparaison d'autres aliments, le contenant a beaucoup d'impact, souligne d'emblée Elliot Muller, chercheur au Centre international de référence sur l'analyse du cycle de vie et la transition durable, CIRAIG. En chiffres, calcul réalisé par Elliot Muller à partir de la base de données française Agribalise, sans considérer la réutilisation de contenants. Lorsqu'on achète une bouteille de bière, son contenant représente la majeure partie de son impact, environ 40%. Son transport représente environ 25% de son empreinte. Sa production, la bière elle-même, seulement 30%. Au Québec, cependant, quelle que soit leur provenance, tous les contenants de bière sont consignés. Et cette consigne est particulièrement respectée. Selon une étude réalisée par la firme Somme pour Recyc Québec en 2021, les contenants de bière sont rapportés chez le détaillant près de 9 fois sur 10. La question n'est donc pas vraiment de savoir quel contenant est le plus facilement recyclé, mais plutôt lequel a le moins d'impact sur l'ensemble de son cycle de vie en comptant ses réutilisations éventuelles. L'importance de la consigne. Parmi tous ces contenants de bière consignés, il faut distinguer les contenants à remplissage multiple, CRM, des contenants à remplissage unique, CRU. Les CRM correspondent, en très grande majorité, aux bouteilles de bière brune produites au Québec qui sont composées à 55% de verres recyclés. Quand elles sont rapportées chez le détaillant, ces bouteilles sont lavées et remplies de nouveau avant d'être remises en circulation. On estime qu'elles sont réutilisées en moyenne 15 fois avant d'être recyclées. Les CRU rassemblent les canettes en aluminium et les bouteilles de bière en verre clair ou vert, comme la Corona ou la Heineken, qui ne sont utilisées qu'une fois avant d'être rapportées et recyclées. Les réutilisations multiples des bouteilles brunes permettent de fortement diminuer leur impact, ce qui en fait le contenant le plus vert pour la bière, selon une analyse de 2015 du CIRAIG. Vient ensuite la canette d'aluminium, qui a environ 2 fois plus d'impact que la bouteille brune. La bouteille de verre à usage unique ferme la marche en raison du fort impact que requiert sa production. L'impact du transport et de l'énergie. Les chercheurs du CIRAIG ont poussé l'analyse un peu plus loin pour voir si ces résultats pouvaient varier selon la provenance. Ils ont pris l'exemple de différentes bières importées du Mexique, d'Europe ou des États-Unis, en canette ou en bouteille en verre, et les ont comparées à des bières produites au Québec. Selon leurs résultats, la provenance joue légèrement sur l'empreinte, mais les bières québécoises restent systématiquement préférables aux bières importées. De plus, la bouteille de bière brune reste la meilleure option de toutes. Il peut sembler étonnant qu'une canette en aluminium, pourtant légère et plutôt facile à transporter et recycler, ait autant d'impact. Instinctivement, on pourrait penser qu'une bouteille en verre, même réutilisée, est moins avantageuse. Même lorsqu'on considère une bière brassée dans une microbrasserie québécoise, mise en canette sur place et vendue localement, on doit tenir compte du détail suivant. La canette elle-même n'est pas produite au Québec. Elle est plutôt produite en Ontario ou aux États-Unis, où le mix énergétique est beaucoup moins vert qu'ici. Si les usines de production des canettes étaient situées au Québec, les canettes seraient l'option la plus avantageuse, indique Annie Levasseur, professeur de génie de l'environnement de l'École de technologie supérieure, ETS. Le fût sur le podium. Le geste le plus efficace pour diminuer l'impact de sa bière est donc d'en choisir une dans une bouteille de bière brune, mais surtout de rapporter cette dernière au détaillant pour qu'elle puisse être réutilisée. Si on préfère opter pour une bière importée ou une bière québécoise en canette, il est quand même important de rapporter le contenant, même s'il ne pourra pas être réutilisé. Car si on le met au bac de recyclage, il sera moins facilement recyclé et on court le risque qu'il soit envoyé à l'enfouissement. Mais finalement, la meilleure façon de déguster une bière reste d'en consommer une dans un bar, servi directement à partir d'un fût et non vendu à l'unité. Le fût permet d'avoir le moins d'emballage ramené au litre. Donc, c'est la meilleure option, souligne Annie Levasseur. Et la cerise sur le gâteau serait d'opter pour une bière brassée sur place pour diminuer l'impact du transport. L'élargissement de la consigne. Sont actuellement consignées toutes les canettes de boissons en aluminium ainsi que la grande majorité des contenants pour les boissons gazeuses et la bière, qu'ils soient en plastique ou en verre. La consigne s'élargit maintenant pour inclure les contenants de boissons en plastique qui ne sont pas encore consignés, comme les bouteilles d'eau. Le 1er mars 2027, viendront s'ajouter les contenants de verre encore non consignés, comme les bouteilles de vin, de spiritueux ou d'eau, de même que les contenants multicouches, comme ceux de lait et de jus. C'était « Bouteille ou canette, quel contenant choisir pour la bière », un texte de Chloé Bourquin, paru le 28 février 2025 dans La Presse.
Les chiffres de l'indifférence, un texte de Luc Desjardins de l'Itinéraire, paru le 22 février 2025 dans La Presse. Le 15 avril 2025, le gouvernement et plusieurs organismes communautaires vont encore une fois dénombrer les personnes en situation d'itinérance au Québec. Un rappel brutal d'une réalité en croissance. Mais à l'Itinéraire, on a décidé de ne pas jouer le jeu en 2025. Pourquoi? Parce que l'itinérance, ce n'est pas juste une affaire de chiffres. Ce sont des vies, des visages, des histoires. On compte, on mesure, on analyse. Et après? Les campements sont rasés, les refuges débordent et les oubliés restent à la rue. L'itinérance n'est pas une fatalité, c'est un échec collectif. Le signe d'un système qui laisse tomber les plus vulnérables. Un loyer trop cher, une rupture, un problème de santé mentale mal pris en charge, et soudain, c'est la rue. Personne n'est à l'abri. Mais plutôt que d'agir, on préfère fermer les yeux. C'est plus facile de faire semblant que ces gens n'existent pas. Ça fait plus de 30 ans que l'itinéraire soutient ceux que le monde préfère ignorer. La voix des gens en situation d'itinérance est au cœur de tout ce qu'on fait. On les écoute, on saisit leurs enjeux, leurs problèmes, puis on travaille main dans la main, autant dans la rue que par le biais de nos programmes de réinsertion, pour trouver des solutions qui leur conviennent. C'est un accompagnement de proximité qui marche et qui donne de l'espoir. Parce qu'au final, personne ne mérite l'indifférence et tout le monde a le droit à une nouvelle chance. Il est temps d'arrêter de faire des bilans et de passer à l'action. On le sait, la première étape, c'est d'offrir un toit à ceux qui vivent dans la rue, sans condition. Mais avant, il faut les rejoindre directement dans leur environnement, la rue. Partout où ce modèle a été appliqué, il a réduit l'itinérance et les coûts en santé et en intervention policière. Alors pourquoi on traîne encore au Québec? Ensuite, il faut rendre les soins de santé mentale accessibles à tous. Trop de personnes en grande détresse n'ont aucun accès aux ressources dont elles ont besoin. Financer des services adaptés et flexibles, c'est non seulement urgent, mais essentiel. Il faut aussi arrêter de criminaliser l'itinérance. Interdire aux gens de dormir dehors ne les fait pas disparaître. Ça les enfonce encore plus dans la misère. Il faut arrêter de traiter la précarité comme un problème de sécurité et lui donner de vraies solutions. Enfin, nous devons changer nos politiques sociales, augmenter les revenus de base, créer plus de logements sociaux, mieux soutenir les personnes à risque, plutôt que de gérer l'itinérance. Pourquoi ne pas la prévenir? Au lieu de fermer les yeux, ouvrons-les sur la réalité. Ces femmes et ces hommes méritent dignité et respect. Nous avons des solutions. Donnons-nous les moyens de les réaliser. Soutenons ceux qui agissent sur le terrain. L'itinérance n'est pas une honte. C'est le miroir de notre indifférence. À nous, collectivement, de briser ce cycle. C'était « Les chiffres de », un texte de Luc Desjardins de l'Itinéraire, paru le 22 février 2025 dans la presse.
Claude Vivier, héros de notre histoire. Un texte de Serge Fizette paru le 3 mars 2025 dans le magazine Fugue. C'est assurément par ses talents de compositeur que Claude Vivier est un héros de notre histoire. Même si sa mort terrifiante, dramatique, en fait un héros tragique. Ce tragique, d'ailleurs, il se manifeste dès ses premiers instants de vie, puisque sa mère l'abandonne aussitôt sortie de son ventre. Sur sa fiche d'identité, on inscrira « Né de parents inconnus, le 14 avril 1948, à Montréal ». L'un de ses biographes, Étienne Lalonde, dira de ce fils de personne « Né un printemps, un oiseau entre les dents, il n'avait pas le cœur parfait ». Mais Claude Vivier pouvait répondre « Le fait de savoir que je n'avais ni père ni mère m'a procuré un univers de rêves merveilleux. Je façonnais mes origines comme je le voulais, feignait de parler des langues étranges. » Placé dans un orphelinat, il y découvre cette peur du noir qui le poursuivra toute son existence. À sa mort, note Louise Baille, des quantités incroyables d'ampoules électriques furent trouvées dans son placard. Cela devait remonter à la crèche où sa mère l'avait laissé après y avoir accouché. En août 1951, Claude Vivier est adopté par un couple modeste du quartier Mile End. À 8 ans, il est abusé sexuellement par un oncle. Puis, on l'envoie au Juvénat Saint-Joseph de Saint-Vincent-de-Paul, où il commence à composer des préludes et à jouer de l'orgue. Ce séjour chez les frères maristes le conduira éventuellement au séminaire, car un moment, il se croit destiné à la prêtrise, comme en témoigne ce poème de 1965 paru dans l'Écho, journal du Juvénat de Saint-Joseph de Saint-Vincent-de-Paul. « Et Jésus, Créateur, doucement me regarde. Il me voit indécis. Il te voit qui me garde. Alors il est bien sûr que je triompherai, qu'avec sa tendre mère un bon frère ferai. » Après quelques mois seulement de noviciat, pendant l'année scolaire 1966-1967, le jeune homme comprend qu'il n'est pas fait pour la vie monastique. Il a découvert son homosexualité et surtout sa nature de compositeur. Il a découvert que son seul sacerdoce, ce sera la musique. Mais il se rappellera toujours que c'est à cette époque, lors d'une messe de minuit, que s'est produite cette rencontre avec la musique. « Elle devait changer toute ma vie », confie-t-il. Inconsciemment, j'avais trouvé l'instrument idéal pour exprimer ma recherche de pureté et aussi la raison même de mon existence future. Toutefois, même si on parle alors de lui comme d'un être tout à fait charmant, chaleureux, capable d'amour humain avec son rire contagieux, sa générosité, sa simplicité, il sera renvoyé du séminaire pour manque de maturité, ce qui ne l'empêchera pas, des années durant, de se rendre fréquemment à l'abbaye cistercienne d'Oka, répétant sans doute à qui voulait l'entendre que la seule voix qui perce en moi, c'est celle de l'enfant qui parle doucement aux anges le soir. Après des études au Conservatoire de musique de Montréal, il voyagera dans différents pays, dont l'Allemagne, les Pays-Bas et en Orient. On rapproche souvent sa musique du courant de la nouvelle simplicité élaborée par son maître Stockhausen et de l'école dite spectrale, née en France dans les années 1970. Selon le chroniqueur André Otto, le titre de l'une de ses œuvres majeures, Lonely Child, est autant une allusion à l'enfance chaotique de son auteur qu'à l'isolement social vécu du fait de son homosexualité. Pour sa part, le compositeur Christian Masson croit plutôt que la musique de Vivier représente un monde qui dépasse sa propre personne. « J'ai toujours cette impression, dit-il, de voyager avec Vivier dans des mondes imaginaires. Sa musique est complètement inspirée, elle vient du cœur. » Quant à Claude Vivier, il clamait que le musicien doit organiser non plus de la musique, mais des séances de révélation, des séances d'incantation. En 2003, son œuvre « Journal », datée de 1977 et créée le 30 mars 1979 au Convocation Hall de Toronto, remporte le Grand Prix de l'Académie Charles Cros. Qualifiant sa pièce de très autobiographique, il disait alors « La vie pour moi est une recherche constante de pureté et quelques étapes vers une désincarnation de mon être. » La désincarnation finale, c'est à Paris qu'elle adviendra, dans la nuit du 7 mars 1983 à la veille de ses 35 ans. À l'instar de Pier Paolo Pasolini, il sera sauvagement assassiné par une jeune prostituée. Lorsqu'on découvre le cadavre, on retrouve dans sa chambre le manuscrit taché de sang de sa dernière œuvre, « Glaubst du an die Unsterblichkeit der Seele »« Crois-tu en l'immortalité de l'âme ?» On y lit cet extrait prémonitoire. Le jeune homme vint s'asseoir près de moi et dit « My name is Harry ». Je lui répondis que mon nom était Claude. Alors, sans autre forme de présentation, il sortit de son veston noir foncé, acheté probablement à Paris, un poignard et me l'enfonça en plein cœur. Son meurtrier, Pascal Dolzan, est appréhendé quelques mois plus tard. Inculpé pour plusieurs meurtres crapuleux d'homosexuels, il est condamné à la réclusion à perpétuité. Claude Vivier est incinéré au cimetière du Père-Lachaise. En 2008, Christine Saint-Pierre, ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, déposait à l'Assemblée nationale une motion pour lui rendre hommage, une première dans les annales de la musique au Québec. « Je voudrais, a-t-elle dit, signaler l'initiative de l'organisme Montréal Nouvelle Musique, qui souligne le 60e anniversaire de naissance et le 25e anniversaire de la disparition du grand compositeur en décrétant le mois d'avril le mois Claude Vivier. Au cours du mois, plus de 10 000 jeunes d'une centaine d'écoles réparties dans 10 régions vont jouer ou écouter une œuvre de Claude Vivier. À cela s'ajoutent 9 concerts présentés à Montréal. Une autre forme d'hommage lui a été rendue en nommant une rue Claude Vivier dans l'arrondissement Verdun-Île-des-Sœurs. Les nostalgiques peuvent y déambuler à sa mémoire en récitant ses vers. « La pauvreté qui fait mal, les dictatures qui déshonorent et le sourire d'un enfant écoutant de la musique. Tels sont mes voyages, tels sont mes souvenirs et mes cris d'horreur ou de tendresse. » C'était Claude Vivier, héros de notre histoire, un texte de Serge Fizette paru le 3 mars 2025 dans le magazine Fugue.
un empereur inspirant. Marc Aurèle, vu par Frédéric Lenoir. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 8 mars 2025 dans La Presse. Depuis quelques années, plusieurs psychologues, motivateurs et philosophes vantent les mérites des pensées de Marc Aurèle. Dans son dernier livre, Frédéric Lenoir se demande pourquoi cet empereur romain semble avoir réponse aux maux du 21e siècle. Le philosophe français nous donne 5 raisons pour lesquelles Marc Aurèle est inspirant. Parce qu'il était puissant, mais humble. Marc Aurèle a été l'empereur de Rome de 161 à 180. Malgré la puissance de son rôle, il était attachant, estime Frédéric Lenoir. Marc Aurèle est un homme d'action avec d'énormes responsabilités. On pense souvent que la philosophie, c'est très bien, mais pour les gens oisifs qui n'ont pas trop de problèmes. Marc Aurèle a été un philosophe dans l'action. Il a appliqué sa philosophie pour être plus juste, parce que la justice nous rend épanouis. Ses écrits peuvent aider les gens à mieux vivre. Au IIe siècle, l'Empire romain vivait une période de troubles. Des guerres, des épidémies, des trahisons. Pour Frédéric Lenoir, le parallèle avec le monde d'aujourd'hui est frappant. La pensée stoïcienne est tout à fait adaptée à un monde chaotique et troublé, dit M. Lenoir. Marc Aurèle nous dit que ce qui nous rend malheureux, ce ne sont pas les choses en soi, mais le regard que l'on porte sur elles. Sinon, on souffre deux fois. D'abord par la contrariété, ensuite par la colère. Certains sont capables de traverser des difficultés, d'autres en restent accablés. Parce qu'ils refusaient la colère et la haine. Marc Aurèle recommande d'accepter l'adversité et ses ennemis au point de les aimer. Frédéric Lenoir donne un exemple de cette attitude. Il a été trahi par un de ses généraux qui commandait l'armée d'Orient. C'était un ami. Marc Aurèle en a été très attristé. Il était en train de faire la guerre dans le nord de l'Empire et a dû retourner à Rome pour la défendre. Avant la bataille, l'empereur a harangué ses troupes. Il a dit qu'elles allaient se battre pour rétablir la justice et le droit, pas pour la vengeance, pas pour être cruelles. Et qu'ensuite, il faudrait se réconcilier avec les frères qui avaient trahi. Finalement, il n'y a pas eu de guerre, parce que les officiers du général révolté ont mis à mort ce dernier et ont envoyé sa tête à Marc Aurèle. Marc Aurèle a pleuré. Il souffrait d'être privé de la possibilité de pardonner. Il n'a pas exécuté la famille du général rebelle, comme ça se faisait généralement. Ça montre bien sa bienveillance. Parce que sa philosophie nous est parfois étrangement familière. La leçon qu'a tirée Marc Aurèle de la trahison de son général est que c'est le propre de l'être humain d'apprendre à pardonner à ceux qui nous offensent, dit M. Lenoir, comme dans le Notre Père. Il y a une vingtaine de maximes de Marc Aurèle qui ont l'air sortis des évangiles. Marc Aurèle ne connaissait pas le christianisme. Les chrétiens étaient alors très peu nombreux. Il y a des convergences qui sont apparues à ce moment dans l'histoire de la pensée, dans le bouddhisme aussi. Parce qu'il avait demandé que ses pensées, pour moi-même, soient détruites après sa mort. Marc Aurèle n'a pas été un penseur du stoïcisme. Il a écrit ses maximes pour réfléchir sur sa vie,
sur les décisions qu'il devait prendre. C'est un miracle que ce livre ait été retrouvé plus de 7 siècles après sa mort. Il avait été conservé par des soldats et un évêque byzantin l'a publié. Monsieur Lenoir a divisé son livre en deux. Il présente l'empereur et la philosophie, puis il organise les maximes de Marc Aurèle en grands thèmes. Quand j'ai lu Marc Aurèle à 18-19 ans, j'ai trouvé son livre percutant. Mais je me souviens que c'était confus. Il passe d'une idée à l'autre. Il écrit des séries de phrases qui n'étaient pas du tout destinées à être publiées. J'ai voulu les mettre en perspective, montrer leur cohérence. À cause de « Carpe diem » et « Amor fati ». Il faut vivre comme si chaque journée était la dernière. Tel est le sens profond de l'une des maximes les plus connues de Marc Aurèle, « Carpe diem », littéralement « Saisis la journée ». Il s'agit d'un passage d'un poème d'Horace. Une autre maxime célèbre associée à Marc Aurèle, « Amor fati », est l'un des fondements de la pensée stoïcienne. Il faut aimer son destin, même s'il est difficile, résume M. Lenoir. À noter que Marc Aurèle écrivait en grec et n'a donc pas utilisé textuellement ses expressions latines. Frédéric Lenoir a lui-même été aidé par Amor Fati. Pendant mon doctorat, j'écrivais parfois dans le magazine L'Express. Mon objectif principal était de travailler comme chercheur. Mais une fois ma thèse terminée, on m'a dit qu'on ne pouvait pas être à la fois journaliste et chercheur. Mes articles dans la presse avaient compromis ma carrière universitaire. Alors, je suis allée voir L'Express pour avoir un poste. Mais ils m'ont dit que j'étais trop universitaire. Les deux portes étaient fermées. J'ai réfléchi et j'ai pensé que ce qui me faisait le plus rêver, c'était d'écrire des livres. Ça a marché. C'était « Un empereur inspirant, Marc Aurèle vu par Frédéric Lenoir ». Un texte de Mathieu Perrault, paru le 8 mars 2025 dans La Presse.